Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous commentons l'actualité qui est largement dominée évidemment par les manifestations hier de soutien à Adama Traoré. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ces manifestations étaient justifiées? Vous pouvez voter sur le Twitter de Sud Radio depuis ce matin. Et puis, municipale dernière ligne droite, irez-vous voter? On en parle avec vous, avec Gaspard Ganzer. Bonjour, vous êtes consultant en communication, vous êtes en tête de liste LREM. Vous êtes tête de liste. Joli lapsus dans le 6e arrondissement de Paris. Régis de Castelnau, vous êtes avocat, vous êtes membre de la rédaction de Causeur et votre blog Vue du droit. Oh là là, vous avez une tête sévère aujourd'hui, vous avez l'air en colère.
Valérie, je dois avouer, je dormais et j'ai failli oublier. Heureusement, mon téléphone
a... Ah,
si. Oui, non, mais parce que je me suis recouché. Ça s'appelle redormir, c'est le meilleur.
Un redormir, c'est le meilleur. Brice Nkonda, vous êtes conseiller régional UDI d'Île-de-France, bonjour à vous. Et Mathieu Alterman, vous êtes journaliste, vous êtes également auteur, vous avez publié Femme fatale aux éditions Quai des Brunes. Donc je l'ai dit, Adama Traoré, George Floyd, même combat. Est-ce qu'on peut comparer la France et les États-Unis? Est-ce qu'on peut comprendre? Vous avez peut-être écouté Maître Bosselu, à l'instant avocat de deux des trois gendarmes, qui ne comprend pas ce que fait la famille Traoré. Commençons peut-être par un tour de table pour voir ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Gaspard Ganzer, commençons avec vous. C'est peut-être ce qu'il y a de plus joyeux dans cette matinée.
Oui, écoutez, comme beaucoup de Français et beaucoup de Parisiens ou de Franciliens, j'ai profité des terrasses hier en toute modération, bien évidemment, de 8h du matin et le petit café sous la terrasse ensoleillée jusqu'à la fin et l'apéro avec les amis. Et j'ai ressenti quand même une envie de vivre, de profiter de cette provision de vie que nous avions emmagasiné pendant plusieurs semaines. Bon, le virus semblait déjà bien loin, puisque même si les tables étaient quand même espacées, j'ai pas vu grand monde se soucier de la maladie. Je sais pas s'il faut s'inquiéter ou s'en réjouir. Moi, j'ai plutôt envie de m'en réjouir parce que c'est la vie qui reprend ses droits.
Alors, c'est vrai qu'hier, il y avait...
Il repleut à partir de demain. Ah oui, c'est à voir pendant 10 jours à partir de demain. Donc, on va avoir une autre tête, le déconfinement.
Il y avait un tweet qui était assez drôle, qui a beaucoup tourné hier, qui était « Si tu n'as pas posté une photo de ton café ou de ton jus d'orange, de ton coca en terrasse, t'as raté ta vie ». C'était effectivement beaucoup de photos hier sur Instagram et sur Twitter. Régis de Castelnau, un coup de gueule.
Alors, je commence par approuver Gaspard. C'était extraordinaire. Moi, j'étais dans le petit village provençal où je réside actuellement. Les terrasses, il y a des grands espaces comme ça, étaient ouverts. Il y avait le bruit, il y avait, les conversations. C'était merveilleux, vraiment. On avait, tout d'un coup, l'impression. Il faisait beau, alors. Donc, on avait l'impression de revivre très exactement. Et c'est là où on voit l'importance de cette sociabilité-là. Tout à fait essentiel. Et c'était, sur la pandémie, effectivement, plus personne ne considère qu'il y a un risque. C'est impressionnant. Alors, c'est contagieux,
cette impression-là. Pourtant, le risque est encore là.
Pas beaucoup. Donc, j'ai l'impression que. Alors, elle reviendra peut-être l'hiver prochain, mais là, j'ai l'impression qu'elle nous a quittés. Alors, donc, on va revivre. Alors, mon coup de gueule, c'est pas un coup de gueule, d'ailleurs, ça me fait plutôt rire. Il se trouve que j'ai accepté la proposition de Michel Onfray d'intervenir dans son média, dans le nouveau média qu'il a décidé de créer, qui s'appelle Front Populaire. Pas moi qui ai choisi le nom. C'est vraiment un projet, Michel Onfray. J'ai des accords en pagaille avec lui, mais je trouvais que c'était intéressant. Et avant même que ce soit sorti, avant même que le premier numéro soit dans les kiosques, avant même que le site qui s'ouvrira le même jour, qui sera un site média aussi, est publié. Quoi que ce soit, c'est un déferlement, barrage d'artillerie, nazi, fasciste, nazi. Alors ça va, c'est très large. Il y a un certain nombre de vigilants, Jean-François Kahn, Juliard, Geoffrin, Le Monde, etc. Et je trouve que c'est assez drôle parce que moi, j'ai écrit un article qui doit sûrement être nazi puisqu'on me le dit. Donc, je trouve que ce serait quand même plus intelligent et plus intéressant intéressant d'attendre, de voir ce qui sera produit, quitte à ce moment-là le démolir. Je veux bien. Hein, moi,
je pense
pas
que c'est l'attelage, là-dessus. C'est l'attelage qui a interrogé, si vous me permettez cette expression, c'est-à-dire les gens.
Pourquoi
qui,
je suis pas un bon cheval, moi.
Je ne sais pas, peut-être que vous, mais dans le troupeau, c'est ça qui a été un petit peu mis en cause. Non?
Attendons de voir. Oui, alors moi, je suis pas enchanté de voir Chevènement, hein, qui est complètement rallié à Macron. Je suis pas enchanté de voir Philippe de Villiers avec lequel j'ai strictement aucune accointance politique et depuis toujours. Mais on verra bien. On verra ce que ça donnera. Il y a d'autres gens. Il y a Henri Pénard-Ruiz, qui est un de mes camarades du parti, hein, avec un P majuscule. Donc, on verra ce que disent les uns et les autres. Ça va être un espace de confrontation. Donc, attendons de voir ce que ça a donné. Non, c'est le réflexe pavlovien qui a consisté à le décrédibiliser tout de suite, que je trouve, et puis violemment, hein, alors peut-être c'est le tempérament d'Onfray, hein, qui suscite
c'est
ce genre
ça.
De réaction
et,
aussi.
Et le professeur Raoul qui participera aussi et qui évidemment fait beaucoup réagir. Brice Nkanda.
Oui, moi je voulais parler de cette interview parce que je fais partie de ceux qui trouvent cette interview très sympathique voire amusante, parce qu'effectivement il dit précisément je suis une élite et je pense vraiment qu'il est une du professeur Raoult, il est incontestable qu'il est une élite dans son domaine. Il suffit de voir le CV du bonhomme, mais je vois mal qui pourrait dire le contraire. Et en fait, c'est une élite pour moi qui est une élite du travail, de l'exigence, de l'effort et pas que du réseau. Donc pour moi, c'est une véritable élite.
Et nous sommes d'accord.
Il est rare, effectivement, de trouver des gens qui l'assument, tout simplement. Et je trouve aussi que c'est un peu antinomique avec la manière dont on l'a présenté. On l'a présenté comme une figure populiste et qu'en fait, on se rend compte qu'il se revendique en tant qu'élite. Et je trouve que ce rapport et ce renversement de situation est assez intéressant. Et je dirais aussi que dans une période qui était très trouble, très incertaine, on attend des élites qu'ils se positionnent et qu'ils agissent. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, on peut être pour, on peut être contre, mais en tout cas, il a donné un cap, et c'est ce qu'on attend d'une élite. Après, sur la dimension
que...
de... Alors, on peut en parler. Après, sur la dimension de starification, tous les médias se sont focalisés sur lui pendant plusieurs semaines. Donc, effectivement, il est devenu une star. Et je pense qu'en fait, la façon dont il l'a amené peut effectivement amener à penser à beaucoup de gens qui fait preuve de vanité sur la méthode, sur la manière. On peut effectivement en parler, mais... En tout cas, sur le fond du propos, je pense qu'il a raison. Et quand il dit qu'il administre l'hydroxychloroquine, il ne dit pas qu'il administre à tout le monde. Il dit qu'il suit un protocole, etc. Donc après, il y a des études avec le Lancet normal qui effectivement fait part du fait que son traitement est inefficace, qu'il est même dangereux. Mais on ne peut pas à la fois dire une élite, il est compétent dans son domaine, et de l'autre côté, dire qu'il est complètement has-been et qu'il a raison, qu'il a tort.
Pardon, prenez Hélène Carrère-Dancausse, qui est une élite, qui est présidente, qui est à l'Académie française. Si elle me donne son avis sur l'hydrochloroquine, j'en ai strictement rien à faire. Bon, c'est
non,
son
attendez,
domaine, je caricature à dessein, mais dire que c'est une élite et qu'il a raison parce qu'il est une élite... je trouve que c'est un raccourci
il n'a pas raison parce qu'il est une élite. Il dit quel est son lieu d'énonciation. C'est quand même très important. C'est un des premiers spécialistes mondiaux. Et on lui a opposé l'étude du Lancet qui a été déchiquetée par toute la communauté scientifique, qui est une imposture, je veux dire. Hein, la direction du journal même a dit
«
Attendez,
mais non !» Ils ont communiqué, ils se sont trompés dans un des éléments là.
Mais c'est faux.
Les conclusions de l'article restent les mêmes.
On ne sait pas les sources.
L'article reste les mêmes.
C'est
communiqués.
Une call girl qui est l'attachée.
Par ailleurs, laissez-moi parler un petit peu. J'ai pas encore parlé. Par ailleurs, j'attends d'une élite de mettre de la nuance dans son discours. Il n'est pas le cas du professeur Raoult, que donc je n'estime pas faire partie d'une élite. Quelqu'un qui
dit comme Bendit qui dit qu'il ferme sa gueule, ça c'est nuancé. Ça c'est nuancé. Ça c'est nuancé.
C'est pas le problème.
Dire de fermer sa gueule, comme Bendit, le chéri de M. Macron, ça c'est nuancé.
C'est pas le sujet. Non,
mais si, c'est le sujet.
Mais non, c'est pas le sujet. On parle de lui. Quelqu'un qui dit j'ai raison contre le reste du monde n'a pas un comportement.
Il dit pas ça. Il dit on sait rien. Ça, je ne sais pas. Voilà ce qu'il passe son temps à dire.
Je vous signale la lecture, juste vous mettre, ça va peut-être vous intéresser. Donc du Canard Enchaîné aujourd'hui qui nous informe qu'il y a une que le parquet s'intéresse au professeur Raoult, un signalement qui a été reçu par un médecin parce qu'il est passible quand même de 3 ans d'emprisonnement pour ne pas avoir respecté la loi Jardet qui encadre les essais thérapeutiques, le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et le cas échéant. Voilà, donc le parquet a écrit à l'ANSM, donc l'Agence de sécurité du médicament. Et visiblement, ils sont quand même assez gênés aux entournures sur ce cas. C'est la procureure de Marseille qui va devoir s'occuper de ce dossier. Mais tout n'est pas blanc et noir dans cette
La procureure de Marseille, comme celui de Paris, comme de celui dans toute la France, s'en occupe, alors là, on peut être tout à fait sûr.
Non, mais vous pouvez pas, vous, homme de loi, dire... Non, mais vous pouvez pas, vous, homme de loi, dire que la justice n'est pas impartiale. Alors, ça nous augure d'un débat sur Adama Traoré absolument remarquable.
Mais tout à fait, j'ai des choses à dire là-dessus, ça, c'est sûr.
Ouais.
Mais Valérie, excusez-moi, juste pour finir, on ne peut pas dire que quelqu'un est une éminence dans son domaine et le traiter comme un moins que rien 2 secondes plus tard. Ça n'existe pas, ça.
Mais c'est pas le cas, je crois que personne ne dit ça.
C'est pas le cas, personne ne dit ça. Mais vous avez...
On a l'impression qu'on est en train de le décrédibiliser, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, globalement.
Mmh. Non mais, Brice, au-delà de ça, qu'on paye les musiciens, on verra maintenant. Mmh. On verra, et je pense que les comptes seront faits, et ce ne sera pas, à mon avis, à l'avantage de ceux qui l'ont traîné dans la boue. C'est tout, hein. Bon, on verra bien.
Il a été beaucoup mis au pinacle aussi, je crois.
Oui, je pense qu'il y a encore une interview ce soir où on a toute une équipe de BFM qui se déplace à Marseille pour aller l'interviewer. Quelqu'un me dit, je ne comprends pas pourquoi il vous donne des boutons. Il ne me donne pas des boutons. Je voudrais qu'il réponde simplement à une question qui est pourquoi il n'a pas fait ce qu'on fait en science, c'est-à-dire ce qu'on appelle un bras comparatif, c'est qu'il puisse y avoir une comparaison. Il aurait pris 2 groupes de personnes à qui il donnait de l'hydroxychloroquine. On aurait pu dès le début savoir si ça marchait. On sait que dans 98% des cas, les gens ont guéri naturellement en quelques jours. Donc la preuve, c'est ça qu'on attend, c'est tout. Après, il a peut-être raison, j'en sais rien, il ne me donne pas des boutons, je veux juste qu'il réponde à cette question. Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant, on va parler, il y aura votre coup de gueule également, ou votre coup de cœur, Mathieu Alterman, vous n'avez pas beaucoup parlé, puis on va revenir sur l'affaire Adama Traoré. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Allez, on continue pour le 10h midi. On est avec vous, Mathieu Alterman. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans l'actualité ?
Le retour du feuilleton pour sa 10e saison du procès du Mediator et des laboratoires Servier. Vous savez que ce n'est pas fini, ça reprend après 2 mois d'interruption. Cette histoire est folle. Il y a quand même une sénatrice UMP, Marie-Thélèse Hermange, qui, visiblement, lors de la demande d'un rapport, vous souvenez, sur le Mediator qui avait causé la mort de centaines de personnes, hein, quand même, il y a plus de 10 ans, on lui avait commandé un rapport, elle a utilisé les services d'un médecin qui était payé par le laboratoire Servier. Donc, c'est une affaire où il y a à la fois du délit d'initié, du trafic d'influence. On a retrouvé dans les bureaux de la directrice juridique du laboratoire Servier des documents pour comment réagir face à quelqu'un qui aurait été touché par un décès du médiateur, qui sont des documents en présence uniquement de la police. Ouais. Ils ont trafiqué les lignes intranet de la police. C'est une histoire de folie absolue. Et la conclusion que j'en fais de ça, parce que bon, finalement, on s'en fout des faits, c'est qu'en France, on a un problème avec la délinquance qu'on appelle à col blanc. Vous savez, ces affaires-là, comme le sang contaminé, comme ceci, ça dure des années, et au final, il y a des non-lieux. Et je pense que, on va en parler tout à l'heure, on est en train de parler de l'affaire Adama, je pense que dans ce type d'affaires, on s'en sort nettement mieux que les Américains, mais pour ce qui est de la délinquance à col blanc, on a des leçons à prendre d'eux. Voilà. Voilà mon avis.
Bon, allez, on va passer aux manifestations hier en soutien à Adama Traoré. 20 000 personnes qui étaient rassemblées à Paris. Il y avait aussi des manifestations à Lille et à Marseille pour à la fois dénoncer les violences policières. C'est une semaine après la mort de George Floyd aux États-Unis et 4 ans après celle d'Adama Traoré. On a entendu tout à l'heure l'avocat de 2 des gendarmes qui nous a expliqué qu'il y avait eu 3 expertises médicales dans un cadre judiciaire et que la famille a saisi un médecin qui a fait, en dehors de tout cadre juridique, une expertise. Et on se demande, c'est la question que je lui ai posée, à partir de quoi, sur quel document et sur quelle base. Et c'est vrai qu'on entend les journalistes, même sur Sud Radio, j'ai entendu une nouvelle expertise, ce n'est pas une expertise, c'est un avis d'un médecin. Il y a pas, enfin, c'est peut-être l'avocat qui peut nous répondre. Il y a une différence quand même, oui, entre une expertise judiciaire et l'avis d'un médecin.
Ben, l'avis du médecin, il n'existe pas. Ça n'a aucun sens. J'ai écouté Bosselu tout à l'heure. Mmh. Il a entièrement raison. Il a entièrement raison. C'est comme dans l'affaire, rappelez-vous, l'affaire Sarah Halimi. Il y avait eu 7 experts qui étaient intervenus avec des avis un peu divergents. Ils ont conclu à l'altération du discernement de l'auteur du meurtre de la malheureuse Sarah Halimi. Hélas, et donc, il y a eu des pressions, des manifestations. Le président de la République est intervenu. Et là, alors, je ne parle pas du problème politique hein, concernant l'histoire Adama. On va probablement en parler, mais sur le plan judiciaire, Bosselu a raison. D'ailleurs, j'ai entendu le journal, une expertise mettant en cause les gendarmes, a dit le journaliste. Absolument pas. Hein. Absolument. Alors, c'est vrai que le problème qu'on a aujourd'hui, hein, si l'instruction se déroule bien, si le débat contradictoire a lieu, on doit s'en remettre. La justice, c'est comme la plus belle des femmes ne peut donner que ce qu'elle a, donc débat contradictoire, elle essaye d'approcher une vérité judiciaire, pas une vérité objective, une vérité judiciaire, et prendre à ce moment-là les sanctions qui s'imposent. Sauf que la justice, depuis 2 ans et demi, 3 ans, nous a donné un certain nombre d'éléments qui amènent aujourd'hui à douter de son impartialité, à douter de sa rigueur. Moi, je suis désolé, je suis en train, malheureusement, je dis malheureusement parce que ça me réveille la nuit, d'écrire un livre à ce sujet, justement. Hein. Dans l'affaire de Zone, il y a eu une répression massive qui a été instrumentée par la justice. Il y a eu un refus de juger les violences policières. Aujourd'hui, il y a une défiance vis-à-vis de cette justice qui est problématique. Je dirais qu'aujourd'hui, on puisse dire c'est l'État qui impose, alors qu'on fait une contre-pression inadmissible, je suis d'accord, c'est l'État qui impose une sortie hein, et un non-lieu qui n'aurait pas lieu d'être, je comprends qu'on puisse avoir de sérieux doutes. Je suis un professionnel, j'en ai pas sur l'affaire Adama, je suis clair. Quand ça s'est produit, je m'étais renseigné. Vous savez, on a quelques amis. Ouais. J'ai eu quelques éléments qui m'amènent à penser que Bosselu a raison. Hein.
Oui. Donc, qu'est-ce que alors les uns et les autres, votre réaction
c'est-à-dire,
à ce qui s'est passé. Alors, on va faire tourner la parole, Régis, vous reviendrez.
Un mot sur l'expertise.
Alors, Gaspard Ganzer.
Oui, déjà, il faut jamais oublier la peine de la famille, quoi qu'il arrive, hein, qui a perdu un des membres de sa famille. Et c'est toujours douloureux et on comprend leur douleur même plusieurs années plus tard, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut toujours faire confiance dans la justice, même si on a le droit dans le tribunal, à l'audience, en amont, pendant les procédures d'instruction et d'enquête, des avaleurs de droit. Moi, je fais confiance à la justice. Donc, je comprends la peine de la famille, je comprends le besoin de certains de manifester pour faire savoir leur opposition. En revanche, je condamne fermement les violences qui ont pu intervenir hier soir, et surtout l'amalgame un peu dangereux qu'il peut y avoir entre la situation américaine avec Floyd et la situation en France, parce que les situations qui n'ont rien à voir.
Mathieu Alterman.
Moi, l'aspect judiciaire, je vais faire très vite. Je considère qu'on ne peut pas dire justice pour Adama. On peut dire justice tout court. Voilà, c'est la justice. Là, il y a un procès. Donc, on pourrait dire justice pour Adama s'il n'y avait pas de procès. Effectivement, on réclamerait un procès. Il y en a un. Donc, déjà, on ne peut pas dire justice pour Adama. En revanche, là, ce qui me chagrine vraiment, c'est le traitement médiatique. Nous avons quand même une génération, en gros les moins de 30 ans, qui s'informe principalement aujourd'hui par les réseaux sociaux. D'accord ? Donc, les réseaux sociaux, dit absence de toute nuance, de pour, de contre, d'éléments. Et bien souvent, cette génération lit les titres, ne lit même plus les contenus des articles. Mmh. Donc, imaginez, quand elle entend les informations qu'on a eues à 11h à votre antenne, ou hier soir, dans le JT de France 2, et que cette jeunesse, quand je dis au mieux, regarde les infos, entend une nouvelle expertise a eu lieu et des douanes, sans qu'on précise que l'expertise n'a rien de judiciaire, a été en 48 heures, et finalement n'a aucune autre valeur que son nom, là, je m'inquiète, vous voyez. On a des gens hier qui ont manifesté, certainement sincèrement, mais je pense que l'immense majorité d'entre eux n'avaient pas lu d'articles profondément fouillés, comme il y en a eu dans Le Monde, d'ailleurs, il y a 2 jours, très bien fait. Bien sûr. où on explique que quand même, c'est pas tout à fait évident, cette histoire, voyez. Et faire le rapprochement avec les États-Unis, moi, me débecte totalement. Il faut savoir que la police américaine, je connais personne, en gros, qui ne s'est jamais fait arrêter aux États-Unis, quelle que soit sa couleur de peau. Il y a un vrai problème de police aux États-Unis. Il y a un problème de racisme et de police. Heureusement, nous sommes un peu loin de ça en France aujourd'hui. Mais je pense que le rapprochement avec l'affaire américaine qu'on peut faire aujourd'hui, c'est pas l'affaire qui nous secoue depuis cette semaine, mais c'est l'affaire O.J. Simpson, qui a 25 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire O.J. Simpson, il y a 25 ans. C'est quand même quelqu'un qui a été quasiment filmé en train de fuir la police après avoir fait sa femme. Et au final, bah, on l'a acquitté de peur d'avoir des émeutes. J'ai peur qu'on se dirige vers ça en France, à savoir un climat d'angoisse, de panique totale, et où l'émotion l'emporte tout le temps sur le judiciaire. Voilà ce qui me fait peur.
Allez, on se retrouve, Brisson Conda, vous aurez la parole au retour. On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant. 0826-300-300 si vous voulez réagir, nous dire si ces manifestations, selon vous, hier étaient justifiées. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Bercoff. On va parler évidemment, on était en train de parler des manifestations hier. Gaspard Ganzer est avec nous, Régis de Castelnau, Brisson Conda et Mathieu Alterman. Brisson Conda, vous a pas entendu sur ces manifestations d'hier soir pour en soutien à Adama Traoré.
Oui, Valérie, moi, je pense qu'il faut être très attentif à un aspect des choses. C'est qu'effectivement, il y a l'affaire Adama Traoré, mais il y a tout le sous-jacent. Parce que s'il y a 20 000 personnes qui se réunissent, c'est qu'il y a un problème de fond. Et le problème, moi, ce que je peux dire et ce que je peux affirmer, c'est que dans nos quartiers, il y a beaucoup de jeunes qui sont victimes de délits de faciès et de bavures policières. Ce ne sont pas des légendes urbaines. Ce sont des cas concrets qui sont évoqués dans les familles. Et ça nourrit un sentiment d'injustice. Et ce sentiment d'injustice-là, il faut à un moment donné pouvoir le traiter. Moi, ça me semble très important parce que les manifestations qui ont lieu actuellement, ce ne sont pas contre la police en général. C'est contre les bavures policières. Et moi, je refuse en fait ce réflexe qui consiste à dire et jeter l'opprobre sur tout un corps de métier. Par contre, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut nier l'existence de bavures policières dans notre pays. Et effectivement, je rejoins ce que disait Régis de Castelnau. De ce point de vue-là, on a l'impression qu'on rentre dans un schéma qui est binaire, avec un réflexe de corps, alors qu'à un moment donné, la police, pour qu'elle soit complètement respectée dans ses fonctions, il faut que les éléments perturbateurs soient identifiés et écartés. Chez les jeunes, nous avons des éléments perturbateurs. On sait très bien que dans chaque quartier, dans chaque cité, on a quelques jeunes qui font que la situation s'envenime. Chez les agents de police, on a exactement le même schéma. Il faut pouvoir les identifier, les écarter et les juger. Sauf que quand on regarde en fait les traductions en justice des agents, il n'y en a pas beaucoup. Les gens pensent que c'est contre la police qu'on le ferait, alors qu'en réalité, non. Ce serait une possibilité de relégitimer la police dans le sentiment que la population a d'elle. Et donc, je trouve en fait effectivement qu'il y a quelques similitudes avec la situation américaine. Il y a peut-être un effet d'opportunisme par rapport, et bon, ça, on ne peut pas nier. Par contre, il y a aussi des vraies différences. Les vraies différences, c'est qu'aux États-Unis, on est sur des agents, un agent qui a apparemment été signalé 18 fois pour ce type de comportement. Donc, on est sur un profil qui est peut-être un peu différent. En France, l'affaire est en train d'être jugée avec des expertises, des contre-expertises. J'ai vu que vous focalisez le débat sur le côté purement judiciaire, mais il ne faut pas oublier l'aspect politique. Et aussi, on a des agents qui sortent de tout un tas de crises. On a des agents en France, on a des agents qui sont...
L'aspect judiciaire, ça me semble, quand on réclame justice pour Adama, c'est de l'aspect judiciaire dont on parle.
Oui, c'est l'aspect judiciaire. Mais au-delà de l'aspect judiciaire, qu'on ait raison ou pas pour Adama, ce que je veux vous dire, Valérie, c'est qu'il y a une existence de ce problème dans nos quartiers.
Mais vous pouvez pas... Alors, Gaspard Ganzer.
Oui, non, mais juste, évidemment, je pense qu'il faut qu'il y ait ce débat à la fois sur le racisme qui existe dans la société française et d'autre part sur les violences policières. Moi, j'avais été extrêmement choqué qu'au mois de juillet dernier, quand il y a un garçon qui s'appelle Cédric Chouvia est mort dans le cadre d'un contrôle d'identité. Son seul crime était de rouler en scooter à côté de la Tour Eiffel. J'avais trouvé qu'il y avait eu assez peu de réactions à l'époque. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas où est-ce qu'on en est sur ce dossier. Des bavures policières, heureusement, elles sont marginales, mais il y en a dans ce pays. Et je pense qu'à travers ces histoires, il faut qu'on s'en saisisse pour faire un grand débat sur les rapports entre la société et la police, sachant que les policiers eux-mêmes aussi sont victimes parfois et cibles. Donc il faut qu'on l'ait, parce qu'on ne l'a pas eu depuis de nombreuses années, il faut absolument qu'on l'ait.
Mathieu Alterman.
Évidemment qu'il y a des policiers racistes, comme dans tous les corps de profession, mais enfin, on a la chance d'être dans un des pays où il y a le moins de bavures policières au monde, qui est déjà trop. On est d'accord, il y en a trop.
Il y a toujours trop,
mais il y a toujours trop, mais on ne peut pas expliquer non plus la violence de certains quartiers envers les policiers uniquement par la violence véhiculée par la police, parce que sinon, ils n'attaqueraient pas non plus les pompiers ni SOS Médecins. Vous voyez, il y a un moment... Bon. Il y a deux choses différentes. Je pense que sur les bavures policières, évidemment, il y en a toujours trop, mais rappelons en permanence qu'il y en a moins ici que dans la plupart des pays dans le monde. Et je pense que vous avez évoqué le délit de faciès, qui est un vrai problème. Disons, les deux sont un vrai problème, mais qui, à mon sens, est un truc qui peut être résolu. Je ne sais pas, personnellement, à quoi sert de contrôler tous les jours des gens. Je
ne sais
pas. Pourquoi ? À rien. On contrôle en permanence des gens par rapport, bah, clairement, on va le dire, par rapport à la couleur de leur peau. Et ça ne sert à rien, si ce n'est qu'à les emmerder, évidemment. Ça n'a aucun intérêt. Vous avez quand même peu de chances de contrôler quelqu'un et de tomber sur un terroriste international, vous voyez. Donc je veux qu'on repense cette politique de contrôle permanent qui ne sert à rien. Voilà.
Mais je ne crois pas que ce soit seulement un problème de contrôle au faciès. C'est un problème de climat général. Il y a des quartiers qui sont abandonnés, où vous avez d'une part les barbus et d'autre part le trafic de drogue qui ont créé une espèce de contre-société particulière. Donc la République, qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc on envoie la police, il y a la BAC, etc. Donc moi je me disais, il faut bien que la police intervienne. Mais c'est vrai que ça crée un climat très particulier. Hein, et lorsque j'ai vu la BAC, qu'on a appelé en soutien des forces de répression du mouvement des Gilets jaunes, on a vu comment ça s'opérait. Je me suis dit, tiens, peut-être effectivement dans les quartiers, c'était difficile, hein, et ça doit être relativement insupportable. Alors, je reviens deux secondes sur le judiciaire, Valérie. C'est qu'il y a vraiment deux problèmes. La manifestation d'hier posait un problème politique qu'il est nécessaire de prendre à bras-le-corps. Je ne pense pas que la France soit un pays si raciste que ça. Et en tout cas, hein, contrairement à ce que dit Rokhaya Diallo, la France a beaucoup à apprendre des États-Unis en matière de diversité. Je préfère que ce ne soit pas comme ça chez nous, hein. Il n'y a pas de bavure, ou très très peu, hein. 20 par an peut-être de personnes décédées à l'occasion de contrôles ou d'interventions ou d'arrestations, donc ça n'a strictement rien à voir avec les 3000 par an qu'il y a à peu près aux États-Unis. Alors, sur la justice, c'est effectivement, ce sont un peu deux questions séparées, la politique et la judiciaire. La judiciaire, il faut que effectivement la machine puisse continuer à fonctionner. Alors, j'entendais Gaspard dire « je fais confiance à la justice ». Bon, c'est un peu ingénu, mon cher Gaspard. L'organisation de la justice…
Mais dans ce cas-là, c'est quoi? C'est l'anarchie?
Attendez,
j'ai pas d'autre choix, en fait.
Je vous pose la question très naïvement. Qu'est-ce qu'on fait si on ne fait pas confiance à la justice?
J'y réponds très naïvement.
Rapidement, parce qu'il faut qu'on avance.
Oui, promis. Pourquoi je dis qu'il ne faut pas lui faire confiance? Parce que la justice, l'organisation, repose sur le principe de défiance. Hein, donc, la collégialité, les règles, le double juridiction, tout ça, toutes ces règles très formalistes, elles sont pour permettre le débat contradictoire et assurer l'impartialité. Je vais vous répondre très simplement. Vous savez pourquoi il ne faut pas faire confiance à la justice, Valérie? Parce qu'elle est rendue par des gens comme vous et comme moi. Hein, et c'est pour ça qu'il faut l'encadrer dans des règles, il faut la faire fonctionner.
Donc c'est quoi? C'est la loi du plus fort? On se rend justice soi-même?
Pas du tout. Il faut qu'il y ait des avocats avec des moyens, il faut qu'il y ait
des moyens.
Ouais. Il faut
mais
pas seulement
les... des moyens, mais
etc.
Mais écoutez, voilà, c'est... Mais le problème, c'est qu'il y a une sorte de deux poids, deux mesures aussi quand on regarde la société. Je vois le maire à l'instant du 17e arrondissement qui s'étonne et qui s'indigne que la sœur d'Adama Traoré dise le seul responsable de ce qui s'est passé hier, c'est le préfet l'allemand. Il dit il n'y a aucune dénonciation de violence inacceptable de certains manifestants. L'organisation d'une manifestation qui normalement est punie par la loi. Là, il n'y a pas de justice. Ce matin, je voyais dans le Parisien qu'un policier a perdu un œil à cause d'un tir de mortier hier. Il y a aussi une bataille de la communication qui est là et où on voit forcément les choses de manière extrêmement manichéenne.
C'est le jeu du cirque médiatique.
Débat politique.
Elle était hier, la sœur d'Adama était sur les plateaux hier, lookée comme une rockstar, superbement maquillée avec une coupe. Je trouve ça d'une indécence. Je ne renie pas du tout sa souffrance, mais il y a un moment quand on se bat pour faire avancer la justice sur la mort de son petit frère, on n'arrive pas sur un plateau looké comme si on allait donner un concert au Stade de France. Ça devient un jeu médiatique.
Là, c'est
du show business.
Ouais.
Ce, ce côté showbiz, on a mis un vernis show business d'ailleurs, il y avait plein de stars de la chanson hier dans la manifestation, tout ça, dessert totalement cette affaire. C'est pas bien, faut avoir un peu de mesure et de décence. C'est très compliqué, il y a du pour et du contre dans les deux camps, l'affaire n'est pas aussi simple.
On a en ligne Olivier avec nous. Bonjour Olivier.
Bonjour. Il y a beaucoup. Sur ce qui vient d'être dit, je trouve que la réflexion sur le look est déplacé et limite sexiste. Je pense qu'on ne ferait pas cette réflexion si c'était un homme et qu'il avait un joli costard.
Un homme, j'aurais dit exactement la même chose.
Je pense que c'est déplacé. Il n'y a pas besoin d'avoir l'air éploré et d'avoir un fichu noir sur la tête pour pouvoir avoir plus de. Ce qui est important, c'est de
faire. Mais monsieur, le juste milieu entre arriver looké comme une rockstar et éploré.
Mais c'est pas le sujet. C'est vraiment pas le sujet.
C'est votre appréciation. Mais peu importe, c'était un détail parce que je trouvais que c'était dommage. Ça enlevait un petit peu de. Personnellement, je crois que c'est et George Floyd et Adama relèvent tous les deux d'un problème de violence policière, de racisme et de violence policière raciste.
Alors chacun. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Enfin, je veux dire, vous pose la question encore une fois. Qu'est-ce que vous en savez ? Vous avez fait le procès ? Vous avez accès au dossier ?
Non. Mais en fait,
que vous disiez qu'il y a des violences et du racisme, c'est évident. Mais ce cas-là précisément.
Oh bah, écoutez, ce cas-là, vous parlez duquel, là, d'Adama ou de George Floyd ?
Non, je parlais d'Adama Traoré. De vous parlez de qui ?
Ah bah, moi, je parlais des deux, puisque c'était un peu l'idée de faire la comparaison entre les États-Unis. Moi, je pense que on a un problème de. Si on nie le problème de racisme et de violence policière qui est associé en France, je pense qu'on ne fera pas avancer la police républicaine. Je crois qu'il faut être très vigilant là-dessus. Et je pense que c'est compliqué pour les gens qui ne vivent pas le racisme au quotidien, mesurer ce que ça peut vouloir dire. Je vais vous dire, j'ai la chance, moi, d'être Algéro-Limousin, d'avoir deux cultures. Je m'appelle Olivier et Khaled. Vous voyez, j'ai cette chance-là. Sauf que Khaled, en France, il n'a jamais trouvé de travail. C'est toujours Olivier qui en a trouvé. Donc, on a une réalité avec laquelle on vit. Et qui est déjà compliqué et que vous ressentirez pas forcément. Donc moi j'interpelle là-dessus. Il y a eu 26 morts depuis mai 2017, tous arabes, des jeunes arabes et des jeunes noirs. Il y a à un moment donné une violence. On utilise des armes dans la police française qui ne sont utilisées nulle part en Europe. On a des gens mutilés. On a des gens qui sont. À un moment donné, il y a une violence. Elle existe. Hier, ils ont balancé des grenades alors que c'était pacifique. Que la manif soit interdite ou pas, c'est une autre histoire. Mais sur 20 000 personnes, balancer des grenades en haut du haut. Honnêtement, je suis pas sûr qu'à un moment donné le préfet Lalban ait pas sa part de responsabilité ou de recherche d'incident pour pouvoir à un moment donné justifier encore une fois cette violence-là.
Non, la police républicaine. Je pense qu'ils avaient surtout envie que ça dégénère hier, hein, Gaspard Ganzard.
La police elle est en roue libre. Non, mais enfin, la police
elle est en roue libre.
Elle est en roue libre,
c'est-à-dire. Mais attendez, juste que notre auditeur termine.
Malheureusement, on est arrivé à un cas de paroxysme là depuis notamment les gilets jaunes. La police, elle a fini par tenir le gouvernement parce qu'il tenait que par sa police. À un moment donné, ça a vacillé sévère. Et la vérité, c'est que c'est très compliqué d'avoir un contrôle sur la police et ça entache toute cette police républicaine dont on peut être fier. Moi, je rappelle quand même, je suis un peu historien, je rappelle qu'à l'origine, c'est la Révolution française et la Garde nationale. Et que l'esprit citoyen de la police républicaine, ce n'est pas ça. Et les citoyens, qu'ils soient noirs, qu'ils soient arabes, ils doivent se sentir citoyens.
Est-ce qu'on peut jeter l'opprobre sur l'ensemble de la police ?
Non.
Ce que vous êtes en train de faire en disant que la police aujourd'hui n'est pas républicaine.
C'est la responsabilité du gouvernement. Moi, je ne jette pas l'opprobre sur la police parce qu'ils subissent pour la majorité, d'une part, le fait que le gouvernement est laxiste, d'autre part, les agissements qui sont, à mon avis, même si on sait qu'il y a une montée de l'extrême droite assez impressionnante dans la police, ça reste minoritaire par rapport, à mon avis, à l'ensemble de la police. Sauf qu'il y a plein de policiers qui se tirent des balles dans la tête, il y a plein de policiers qui craquent, qui n'en peuvent plus, qui n'ont pas le droit de dénoncer ce genre de choses parce que c'est l'omerta. Moi, sur les bavures, un dernier mot, hein, parce que ça m'a fait bondir aussi, il y a moins de bavures. Non mais sérieusement, il y a une impunité en France aujourd'hui qui ne permet pas de dire qu'il y a moins de bavures. Parce qu'il y a des classements
sociaux. Les chiffres.
Ces chiffres, ils sont bidonnés, monsieur.
Mais c'est pas le chiffre. Il y a moins de bavures en France que dans.
Écoutez,
c'est pas parce que vous l'affirmez qu'il y a moins de bavures. Hein.
Non, moi, je suis désolé. Je vois les classements sociaux de l'IGPN.
Vous connaissez bien les États-Unis ?
Oui, oui, je connais un petit peu les États-Unis. C'est, à mon avis, donc, c'est encore autre chose.
Une
mais...
seconde, faire la comparaison entre la police américaine et la police française. Vous connaissez bien les États-Unis.
C'est... Mais les États-Unis, c'est un pays où on porte des armes. C'est pas, c'est pas, ça peut pas être la même. On peut pas faire cette comparaison comme ça. C'est... Il s'agit pas de ça. Ils portent des armes. Ils ont un autre fonctionnement.
Par bah, les policiers français aussi. Même, les policiers français aussi ont des armes.
Bah, non, mais les délinquants sont armés. Je pense que c'est ce que je veux dire.
Ah oui, d'accord. Oui, j'ai compris. Je croyais que vous parliez de la police. D'accord.
Non. Et par contre, la police française, concrètement, le LBD, les grenades de désencerclement, excusez-moi, mais on est arrivé à un niveau de violence qui fait. Moi, je pense qu'il faut faire très attention à. Encore une fois, être dans le déni par rapport à ce qui se passe. Je sais que le gouvernement il a peur de la contagion que ça pourrait faire, mais je crois qu'il y a un tout. Il y a une violence qui est exercée depuis longtemps. Là, c'est des détonateurs. Et Floyd et Adama, c'est des détonateurs. Voilà.
En fait, Je vais vous interrompre, Olivier. Merci de votre appel en tout cas. Et puis on va le commenter dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous revenons donc sur ce que disait l'auditeur, juste une réaction Twitter sur Facebook. Je m'appelle Yamina, mon seul prénom, franco-algérienne, et Yamina a bien trouvé un travail, comme d'ailleurs ses frères Hamid, Hossine et Djelloul. Il faut arrêter la généralisation et la victimisation permanente. Voilà, beaucoup de messages également.
Faut pas nier non plus.
Il y a beaucoup de messages qui racontent qu'effectivement, il y a du racisme très clairement pour certains. Alors, qui veut reprendre la parole ? Mathieu.
Non, il y a du racisme à l'embauche et dans l'immobilier, bien entendu. Évidemment, pour trouver un appartement, ça dépend du prénom que vous avez. Et c'est, moi, je rejoins ça. Il faut arriver pour l'emploi au CV anonyme, évidemment.
Mais ça produit des effets inverses.
Excusez-moi. Pas le débat sur le CV anonyme.
Il y a un fléau dans ce pays qui est le racisme, mais aussi l'antisémitisme, toutes les formes de discrimination. On n'en parle jamais assez. Moi, je m'étais réjoui, comme beaucoup, que l'année dernière, on ait pu mettre sur le devant de la scène médiatique la question de la misogynie, des discriminations envers les femmes, mais on pourrait aussi beaucoup plus parler des discriminations dont sont victimes toutes les autres personnes, les personnes de couleur noire,
en particulier.
Personnes handicapées, et sans relativiser aucune des souffrances ni aucune des discriminations. Par contre, hier, tout à l'heure, votre auditeur me faisait un peu bondir, parce qu'en fait, je supporte pas le discours qui consiste à considérer que le préfet de police ou le gouvernement se font plaisir à organiser des formes de répression. Non, ils font de leur travail, c'est de préserver l'ordre public. Et je peux vous dire qu'hier, il y a aussi eu des débordements dans le cadre des manifestations. Il faut aller demander aux commerçants du 17e ce qu'ils en pensent. Vous verrez qu'ils étaient quand même bien contents que la police ait été là.
Brice, une condamnation.
Oui, je voulais intervenir sur un point, c'est qu'il ne faut pas minimiser le nombre de bavures policières qu'on a dans les quartiers. Je peux vous dire que dans mon entourage proche, je le vois, je le constate. Le problème qui se pose quand on parle par exemple de contrôle au faciès,
c'est
un jeune.
Une
bavure n'entraîne pas forcément la mort, parce que j'entendais Régis Castelnau dire qu'on n'a qu'une vingtaine de cas. Effectivement, on en a moins qu'aux États-Unis. Mais une bavure, c'est dans la vie de tous les jours. Quand on se fait interpeller de manière un peu vigoureuse alors qu'on n'a rien fait, quand on se fait contrôler plusieurs fois dans la même journée, on a des jeunes qui se font troller plus de 5 fois dans la même journée. Pourquoi?
Parce qu'ils ont un faciès mort au rap. C'est insupportable.
Oui, non, mais il y a des bavures. Dans les quartiers, si, moi je vous le dis, il y a des bavures. Il y a des agents qui outrepassent leurs droits. Ils travaillent dans un cadre qui est très compliqué. Très souvent, ils sont les derniers maillons de la chaîne. Ils sont fatigués. Les médiateurs ne sont pas forcément suffisamment présents. Les opportunités d'insertion ne sont pas présentes. Quand on parle du CV anonyme, c'est une petite goutte parmi tout un maillage de choses qu'il faut mettre en place et qui ne sont pas bien présentes dans les quartiers. Donc, dans les quartiers, on a des bavures. Et si vous avez 20 000 personnes qui se réunissent sur un simple appel, c'est qu'il y a un vrai problème. Et ce problème-là, effectivement, Adama Traoré, il y a une affaire qui est en cours et qui doit être jugée. Mais il faut pas le nier. Et les gens qui habitent dans les quartiers le savent très bien. Et c'est un problème qui est mis de côté depuis pas mal de temps. Et plus on met les choses de côté, plus elles nous reviennent en plein visage.
Mais vous avez un discours assez manichéen, c'est-à-dire qu'il y a la police méchante d'un côté et les gentils des quartiers.
Vous ne m'avez pas bien écouté, Valérie. Là-dessus, j'ai été très clair.
Je vous provoque un petit peu.
J'étais très clair. Alors, en fait, j'étais très clair sur le sujet. C'est qu'il y a quelques éléments perturbateurs chez les jeunes et dans le corps de police. Quelques éléments perturbateurs, mais qui font du mal à beaucoup de monde. Je ne suis pas manichéen, mais il faut être très clair sur le fait qu'il y a des bavures dans les quartiers. Et il n'y en a pas qu'un petit peu, il y en a souvent. Pourquoi ? Parce que le contexte est difficile, parce qu'on a des agents qui sont exténués, qui ont fait les gilets jaunes, le confinement, le déconfinement, etc. Et donc, on est dans des contextes qui sont très difficiles. Et j'ai vu une interview d'un syndicaliste qui disait qu'on est assis sur une cocotte minute. Et je pense que c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, quand il y a des agents qui outrepassent leurs droits, ça parle dans les quartiers, dans les familles. Et à un moment donné, il y a un sentiment d'injustice et il y a des gens qui se révoltent. Donc, il faut prendre cette question-là vraiment à bras-le-corps et être très sérieux sur le sujet. Parce qu'autrement, vous verrez qu'il y aura des débordements et ça ne s'arrêtera pas. Alors, sur la protestation d'hier, elle est interdite. Mais tant qu'elle est pacifique, c'est la bonne manière de protester, comme on le voit aussi aux États-Unis. Par contre, on voit que souvent,
Vous trouvez que c'est pacifique aux États-Unis ?
Il y a une manière de protester qui est pacifique, si. On a vu des agents qui mettent le genou à terre, on a vu des gens qui se couchent et qui font les choses de manière pacifique, et on a aussi des éléments perturbateurs. Vous parliez de ne pas être manichéen, Valérie, on a les deux, on constate les deux, aux États-Unis comme en France, d'ailleurs. Absolument.
Je pense que Brice a raison, Valérie. Il faut découpler l'affaire Adama, judiciaire, ce qui s'est passé, etc., l'importance de la manifestation d'hier, qui pose une vraie question politique avec tout cet arrière-plan. Je crois que c'est pas tellement la question du nombre de bavures, une statistique, etc., c'est simplement qu'il y a une réalité, de la perception par les gens de ce qui est un affrontement. Ce que dit Brice, c'est juste, vous êtes brutalement appréhendé, pour rien, vous avez des contrôles pour rien, ça nourrit un sentiment d'arbitraire et d'injustice, qui effectivement est insupportable. Vraiment, justice pour Adama, c'est pas le bon mot d'ordre, parce que vous avez tout à fait raison. Si on dit justice pour Adama, ben on s'en rapporte au système qui est là et qui va essayer de trouver une solution sous les pressions de part et d'autre. Mais là, le problème, et c'est en ça que la comparaison avec les États-Unis, qui ne fonctionne pas pour moi, mais est quand même intéressante. Elle permet justement de voir où sont nos avantages et pourquoi nos sociétés sont à ce point différentes, contrairement à ce que dit Rokhaya Diallo. Je pense qu'on n'a pas de leçon à recevoir des États-Unis de ce point de vue.
Mathieu Alterman.
Et j'ajouterais qu'aux États-Unis, si on avait eu l'affaire Adama, il n'y aurait même pas eu de procès. Vous voyez ? C'est simple, quoi. Il faut rappeler ça en permanence. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas rappelé dans les médias, ou en tout cas dans les réseaux sociaux. Il y a un procès. Donc, on ne peut pas demander justice à quelqu'un alors qu'il y a un procès. C'est un pléonasme. Évidemment qu'il y aura justice pour Adama.
Il n'y a pas de procès, justement. C'est un peu ça, le problème.
Non, mais il n'y a pas
pour eux, pour la famille.
Si.
Pour l'instant,
vous parlez, il n'y a pas d'audience, Valérie. Il n'y a pas d'audience, mais il y a une procédure judiciaire avec un juge d'instruction qui sont des juges du siège et qui va déboucher sur un non-lieu, probablement, comme l'a dit Bosselut.
Oui, c'est ça, qui n'aboutira pas forcément à un procès.
Mais c'est une décision de justice.
Il y a une procédure, oui, je suis d'accord.
Qui n'aboutira pas à une audience, mais le procès est en cours.
C'est ce que la famille conteste, justement.
Excusez-moi, mais je trouve que ce qui est sorti en 48 heures pour contredire la version qui ne convenait pas à la famille Traoré, pour moi, est une erreur de communication de leur part, parce que évidemment, on l'a entendu, l'avocat des gendarmes tout à l'heure, il a dit, mais comment vous pouvez mettre sur le même plan les résultats quelque chose qui était fait en 48 heures par quelqu'un qui n'a même pas été assermenté par la justice? Pour moi, c'est une erreur de communication de la famille Traoré, réellement.
Après, j'aimerais ajouter un point, c'est qu'en fait, il y a un sentiment, et je parle bien d'un sentiment, que quand on a des bavures policières qui sont en train d'être traitées par la justice, qui est un réflexe de corps. C'est-à-dire qu'on a tous les syndicats, le corps policier, le corps des pompiers, le corps qui se met en route et qui, au final, est une machine contre laquelle on ne peut pas lutter. Sauf que moi, ce que je dis dans mon propos, c'est que il vaut mieux pour ce corps de profession d'identifier les éléments perturbateurs et de les juger, et de manière très impartiale. Et le sentiment, c'est que la justice n'est pas impartiale. Et je reviens à ce que disait Régis de Castelnau tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des humains qui rendent la justice, et ça pose la question de leur cadre de travail, des moyens qui leur sont donnés, etc. etc. Donc, il y a ce sentiment de la part des familles qui sont ou qui ont été victimes, qu'en face d'eux, il y a tout le temps un réflexe de corps. Il ne faut pas toucher à la police, quoi qu'il arrive.
Mais on n'échappera pas à un débat plus général, au-delà de l'affaire Adama, de justice pour Adama, on n'échappera pas à un débat plus général sur la question des rapports entre la police et la société. Ça fait quand même deux ans qu'on parle de bavures policières, agressions contre les policiers. Je pense qu'il faut avoir une vraie discussion, un débat de fond sur le sujet au niveau du pays.
Oui. Est-ce que le ministre de l'Intérieur, vaste question à 2 minutes de la fin, est à la hauteur?
Mais il faut qu'il le soit, en tout cas, c'est une certitude.
Bah oui. Hier, il a réagi, il était 23h30 avec une phrase « La violence n'a pas lieu d'être dans la démocratie », qui était…
Mais Valérie, ouais, Mathieu, 23h30, Mathieu. Les boîtes étaient rouvertes, il a pu aller boire un coup.
Je pense que… Je ne sais pas
m'excuse.
Si M. Castaner est à la hauteur ou pas. Je pense en revanche que le président ne l'est pas sur ces sujets-là. Il fait preuve de grande faiblesse.
C'est-à-dire que là va se poser pour lui effectivement une question. Non, Gaspard Ganzer, rapidement, ça va être très compliqué pour lui de réagir sans mettre les banlieues justement à feu et à sang.
Il va devoir faire preuve d'équilibre et de tempérance, parce que sur ce sujet, le piège, c'est d'être justement manichéen, comme on s'est dit tout au long de ce débat. Il va vouloir avoir ce propos équilibré, c'est ce qu'on attend de la part du président de la République, mais il devra certainement s'exprimer relativement rapidement.
Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre. Merci à vous, auditeurs de Sud Radio. Dans quelques instants, vous allez retrouver André Bercoff. Nous, on se retrouve demain pour d'autres débats. Très bonne journée.